Voilà, donc comme on l'a dit, c'est un culte spécial puisque aujourd'hui nous allons consacrer un enfant. Et voilà pourquoi que, avant de faire ce rituel, cette cérémonie, on veut parler de pourquoi on fait justement la consécration d'un enfant. Donc les enfants vont rester avec nous parce que je vais les faire participer tout à l'heure, parce qu'eux aussi doivent comprendre aussi, saisir pourquoi que on le fait ça devant l'Église. Donc ce matin, notre sœur Inès, notre frère Pierre vont présenter leur fils Gédéon devant la congrégation, comme un acte de foi, justement, un engagement de leur part à élever leur fils dans la vérité de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. On voit tout au long de la Bible que les enfants ont une grande importance aux yeux de Dieu. Et on voit comment que Jésus prenait vraiment beaucoup de temps aussi avec eux. Il ne les rejetait pas, même si dans la société où Jésus était, on avait tendance à dire que les enfants n'étaient pas importants. Que les enfants... Non, laisse l'écran numéro 3. Que les enfants n'étaient pas importants tant qu'ils n'étaient pas adultes. Mais Jésus va leur dire, dans Luc chapitre 18, versets 15 et 17, des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Donc Jésus va dire que oui, les enfants ont le droit aussi au royaume de Dieu. Les enfants ont le droit de s'approcher de Dieu, de vivre aussi leur cheminement, leur foi avec Dieu. Même peut-être si c'est différent, peut-être qu'un adulte, parce que la compréhension est différente. Mais Jésus veut les accueillir aussi comme des enfants et aussi comme des adultes. Donc Jésus veut démontrer à ces sociétés, et encore aujourd'hui on veut le faire aussi, que les enfants ont leur place dans l'Église, ont leur place avec Dieu, et qu'ils peuvent aussi recevoir l'amour de Dieu et la vérité. Voici ce que dit l'Église méthodiste libre sur la consécration, présentation d'un enfant. Alors, on a eu l'occasion de regarder avec Pierre Ignace un peu comment ça va se dérouler, mais voici ce que l'Église méthodiste va dire par rapport à pourquoi on le fait. La présentation d'un enfant au Seigneur pour être consacré est un événement d'une grande portée pour les parents, pour l'Église et pour l'enfant. Ce doit être un événement qui implique la communauté des croyants et doit se faire dans le contexte de la réunion du culte, lorsque le peuple de Dieu est rassemblé. Donc on voit à travers ces petites phrases comment que c'est un événement qui est important, qu'on veut souligner, parce que c'est vrai que c'est le premier, comme la première célébration pour un enfant, pour une famille, de présenter l'enfant devant le Seigneur, devant l'Église. Mais c'est important justement de faire aussi dans le cadre de l'Église, lors des célébrations. Il continue en disant, il s'agit aussi d'une occasion d'engagement public par la famille et par l'Église, qui s'engage à être de bons intendants de ce cadeau précieux offert par le Dieu que nous adorons. Il s'engage à prendre soin de l'enfant et à l'éduquer. J'aime dans ce bout de phrase que justement ils disent, il s'engage à être des bons intendants. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion beaucoup de dire qu'on est des intendants des enfants, mais on sait que les enfants appartiennent à Dieu. Et nous sommes, c'est vrai que nous sommes les parents, nous sommes des frères et sœurs qui vont les entourer, mais nous sommes des intendants dans le sens que c'est un cadeau que Dieu nous donne et il nous demande de bien l'utiliser, de bien l'entourer pour que nous soyons des intendants qui soient fidèles au Seigneur. Alors justement, on va voir quelques points par rapport à l'intendance. Comment être un intendant? On le voit généralement être un intendant dans le côté finance. On est en train de faire un cours justement sur le finance avec quelques personnes. On voit l'importance de laisser nos trésors, nos richesses dans les mains de Dieu et qu'on soit juste un gérant de nos possessions. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon intendant aussi devant Dieu, face aussi à nos enfants? Donc, comme on le voit justement dans l'explication de la consécration de l'Église méthodiste, il y a un engagement qui se fait de la part des parents, qui disent ils s'engagent à être des bons intendants de ce cadeau précieux offert par le Dieu puissant. Donc l'intendance selon Dieu n'est pas juste des principes qu'on applique dans notre vie de temps en temps. Il faut que nous comprenions réellement pourquoi nous faisons tel geste, pourquoi que nous allons dans telle direction. Donc l'intendance selon Dieu, ça commence aussi par notre relation avec Dieu. Il faut être un bon intendant selon Dieu. Avant de connaître, il faut connaître notre Seigneur, il faut connaître sa nature, il faut connaître sa volonté. C'est d'avoir cette relation de proximité avec lui, de développer une relation saine au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. On doit avoir aussi justement une compréhension équilibrée et honnête de nous accepter tel que nous sommes. C'est-à-dire que, à la lumière de notre relation avec Dieu, que nous sommes une créature merveilleuse, sauvée par grâce. Chacun de nous ne sommes pas un accident. Nous sommes créés par Dieu et nous permet d'être sur terre pour pouvoir vivre la vie qu'il a prévue pour nous. La tendance va aussi avec notre relation avec nous-mêmes. Si on n'accepte pas de laisser le contrôle de notre vie dans les mains de notre propriétaire, c'est-à-dire Dieu, alors nous n'arriverons pas à être de véritables intendants. Parce que souvent, en tant que personne, on est poussé comme un patron de choisir pour nous-mêmes. C'est nous qui sommes au contrôle de notre vie. C'est moi qui décide de ce que je fais. C'est moi, c'est moi. Le problème souvent en tant que chrétien, c'est qu'on glisse vers un état d'esprit justement de propriété, de contrôle de nos vies, de nos possessions. C'est à moi, je le mérite, je fais ce que je veux. Mais tout cela fait que justement ça nous amène beaucoup à la peur, à l'anxiété, à la méfiance, à l'égoïsme, parce que justement tout est grivé sur nous, sur nous. Un autre point qui est important, c'est notre relation avec les autres. Si nous voulons accomplir les principes de Dieu comme intendant, nous devons le faire envers notre propriétaire, envers nous-mêmes, mais nous devons aussi le faire envers les autres. Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir pour chaque homme, pour chaque femme, pour nous donner la vie à travers son sacrifice sur la croix. Donc le Seigneur nous aime tous la même chose. Par conséquent, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi qu'on a besoin aussi d'avoir cet amour les uns envers les autres. Ce n'est pas juste un commandement, dire ben, si vous pouvez, faites-le. Non, nous devons nous aimer les uns les autres si nous voulons être de véritables intendants, des gérants de ce que Dieu nous donne. Il y a, c'est sûr, d'autres aspects de l'intendance, comme celle de notre temps, par exemple, de comment gérer notre temps. On doit le faire à travers le Seigneur, de notre santé, de faire attention à notre santé, notre argent ou notre possession, comme nous l'avons vu aussi tout à l'heure. Tous ces points démontrent comment qu'un parent doit être un bon intendant envers son enfant, envers ses enfants. Le deuxième aspect qu'on retrouve dans l'explication de l'Église méthodiste sur la présentation ou la consécration de l'enfant, c'est il s'engage à prendre soin de l'enfant et à l'éduquer. Je vais poser une question à vous, les enfants. Est-ce que vos parents prennent soin de vous? Pas très positif là. Oui? Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour justement s'occuper de vous, prendre soin de vous? C'est dur, hein? Alors, levez la main, mais comment ils font pour s'occuper de vous, de prendre soin de vous? Oui? Ils donnent la nourriture, oui, ils nous donnent à manger, oui. Est-ce qu'ils vous donnent à manger tous les jours ou une fois tous les 3 jours? Tous les jours, hein? OK. D'autres choses, comment ils prennent soin de vous? Alors, on voit que c'est la fin de la semaine, hein? Ils sont un peu fatigués, un peu, hein? Hein? Ils vous aiment, ils vous habillent, hein? Des fois ils vous donnent des cadeaux, ils prennent soin de vous quand vous êtes malade, etc. Hein? C'est toutes des choses justement comment que le Seigneur nous aime. C'est le devoir de chaque parent, c'est justement de prendre soin de l'enfant que Dieu leur a donné. On le voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit, Vous pères, n'exaspérez pas vos enfants. Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Susanna Wesley, donc la mère de John Wesley, qui était le fondateur de l'Église méthodiste au 18e siècle, a eu 17 enfants. Hein? Donc, pas mal, elle doit avoir un peu d'expérience. Voici ce qu'elle écrit. Le parent qui s'évertue à inculquer la maîtrise de soi à son enfant travaille avec Dieu au renouvellement et au salut d'une âme. Le parent qui manque de le faire fait le travail du diable, rend la religion impraticable, le salut inaccessible et permet à tout ce qui sommeille dans l'enfant de le mener à la damnation éternelle du corps et de l'âme. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que justement, le parent doit s'évertuer à éduquer, à former l'enfant dans les voies du Seigneur. S'il ne le fait pas, il fait simplement d'amener l'enfant dans le chemin du diable. Et ne permet pas que cette relation avec Dieu puisse vraiment se développer. Je crois que c'est vraiment des paroles qui sont fortes de Susanna Wesley, de comment de l'importance que le parent a envers son enfant. Donc les parents de Gédéon vont prendre cet engagement tout à l'heure devant chacun de vous et devant Dieu d'élever cet enfant dans la vérité de Dieu qu'on retrouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Les parents ont le devoir, non pas juste d'élever l'enfant avec une bonne éducation, de l'instruire sur les voies de Dieu, mais eux aussi ont besoin de vivre cette vérité avec Dieu. Ils ont besoin de mettre à chaque jour du temps pour le Seigneur, afin de rechercher, de l'écouter, de prier pour leurs besoins et les besoins des autres. D'après vous, comment que Suzanne Wesley faisait pour prendre le temps avec Dieu lorsque tu as 17 enfants qui courent dans la maison? À ce moment-là, peut-être qu'ils n'avaient pas plusieurs pièces fermées comme ça. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait à genoux au milieu de la pièce, puis elle remettait sa robe par-dessus elle, et les enfants savaient à ce moment-là qu'il ne fallait pas déranger ça, leur maman, qu'elle était en train de prier, de prendre en relation avec Dieu. Donc même au milieu de la maison, même avec tout le bruit, elle était capable de prendre cette connexion avec le Seigneur. Donc, les parents doivent prendre ce temps avec Dieu, de s'instruire eux-mêmes, de progresser dans leur foi chrétienne, de venir à l'église pour vivre cette communion avec les autres et être enseignés. Donc, si les parents vont juste dire qu'ils croient en Dieu sans vraiment le vivre, alors l'enfant va aussi le voir et il ne pourra pas mettre en pratique ce qu'il entend de ses parents, puisqu'il n'entend pas, puisqu'il voit que ses parents vont dire: « Oh, il faut que tu croies en Dieu. » Mais s'il ne voit jamais ses parents à genoux à prier, s'il ne voit jamais ses parents lire la parole, s'il ne voit jamais ses parents leur enseigner, comment que cet enfant va pouvoir faire la même chose que ses parents? Vous avez entendu dernièrement qu'on parle beaucoup des médias sociaux et surtout des enfants avec les médias sociaux qui voulaient voir peut-être pour peut-être interdire ou mieux contrôler, encadrer les médias sociaux peut-être avant 16 ans. Donc on voit comment qu'aujourd'hui, ce n'est plus les parents qui vont gérer ce que l'enfant fait, il faut que ce soit le gouvernement qui donne des lois, des encadrements, parce que les parents ne sont pas capables. C'est sûr que si l'enfant voit que tout le temps ses parents sont sur le cellulaire, qu'au lieu d'être avec eux pour pouvoir partager, l'écouter, qu'ils sont toujours en train de sur le cellulaire, mais qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va faire la même chose. Donc c'est un peu difficile après à dire à un enfant de 12-13 ans, pourquoi tu sois sur ton cellulaire plus que X temps, quand son père ou sa mère fait la même chose. Alors ce matin, Nièce et Pierre, vous allez prendre cet engagement d'élever, d'éduquer dans les meilleures dispositions que vous pouvez votre fils Gédéon, que ce soit dans l'apprentissage de la vie de tous les jours, de lui enseigner les voies de Dieu en lui démontrant l'exemple, comment vous désirez que le Seigneur soit le centre de votre vie, de démontrer à votre garçon l'importance de grandir dans la connaissance biblique et dans la foi de Jésus. Et le dernier point, et le non le moindre, c'est que l'Assemblée ici présente a aussi une responsabilité face à cet enfant et à ses parents. Dans l'explication de l'Église méthodiste, comme on a lu tout à l'heure, il est dit: un événement qui implique la communauté des croyants. Donc la présentation d'un enfant au Seigneur pour être consacré est un événement d'une grande portée pour les parents, pour l'Église et pour l'enfant. Ça doit être un événement qui implique la communauté des croyants et doit se faire justement lorsque toute la communauté est rassemblée, comme ce matin. La présentation d'un enfant est une marque d'appartenance à la communauté des croyants, une célébration du fait que la grâce de Dieu est déjà en œuvre dans la vie de l'enfant, comme faisant partie d'une famille chrétienne. Il s'agit aussi justement d'une occasion d'engagement public par la famille et par l'Église, qui s'engage à être des bons intendants de ce cadeau précieux qui est offert par Dieu. Il s'engage à prendre soin de l'enfant et à l'éduquer. Alors oui, en tant qu'Église, en tant que chrétien, on a cette responsabilité d'encourager cet enfant et ses parents à continuer de cheminer dans leur foi en Dieu, de les aider dans les moments les plus difficiles, de prier pour eux afin que les parents et l'enfant grandissent dans la connaissance, dans la foi, dans le Seigneur. Alors avant de terminer, j'aimerais juste voir quelques instants, en faire un petit parallèle par rapport au nom Gédéon. Peut-être que les parents vont nous dire pourquoi ils ont choisi ce nom. Mais quand j'ai appris qu'ils s'appelaient Gédéon, c'est vrai que la première idée qu'on a, hein, on retrouve Gédéon dans la Bible. Hein? Les enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire de Gédéon dans la Bible? Oui? Qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Il a combattu les ennemis, ouais, et il a combattu d'une façon vraiment spéciale. Alors, on ne va pas regarder tout en détail, mais juste voir comment que Gédéon a pris cet engagement aussi envers Dieu de faire quelque chose. Dans Juges chapitre 6, verset 12, on voit comment que l'ange va s'adresser à Gédéon. Juges chapitre 6, verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Quelle situation, hein? Est-ce qu'on n'aimerait pas entendre cela à tous les jours, hein? Imaginez que on vous accueille ce matin à l'église par ces mots. Alvin, Clémentine, Pierre, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héros. Hein? On peut mettre chacun de nos noms. Est-ce qu'on aimerait justement, hein, qu'on soit accueilli comme ça, comme un vaillant héros? Ce serait quoi votre réaction? Vous serez content, vous serez de ah, waouh, on prend de l'importance. Ah, merci, merci pour cela. Mais voici ce que Gédéon va dire dans le verset 13. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que notre Père nous a racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madiatites. Imaginez, il reçoit une belle salutation par le Seigneur, puis lui dit, non, 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 écoute, non, non, regarde tout ce qui se passe. On est abandonnés. Regarde, on est soumis à des ennemis. Il n'est pas capable de se voir comme un héros. Il voit juste le malheur. Il ne voit pas Dieu agir. Souvent, ces fois, c'est comme ça qu'on est aussi. Lorsque le Seigneur veut comme nous encourager, nous dire que nous sommes des vaillants héros, que nous sommes des personnes qui valent quelque chose, que Dieu a vraiment, qu'on est précieux à ses yeux, puis là, on dit non, non, mais écoute, regarde tout ce qui se passe. Je ne suis pas capable de voir cela en moi. On a besoin de changer notre discours et dire, Seigneur, oui, il y a des malheurs autour de nous. Je ne sais pas quoi penser, quoi qu'arrive. Mais je crois que même dans les choses négatives ou difficiles, tu désires te manifester, tu désires apporter ton amour et ta bonté. Alors Dieu lui apporte une autre réponse au verset 14. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Même en tant que jeune enfant, on a une certaine force et on peut faire quelque chose aussi pour Dieu. C'est qui nous envoie? C'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu qui nous a mis au monde. C'est lui qui nous donne la force jour après jour, qui nous donne le souffle de vie. Mais comme Gédéon, on a souvent des excuses. Donc la première excuse qu'il avait, ou la constatation, c'est par rapport à tout ce qui se passait autour de lui. Mais regardez dans le verset 15. La deuxième excuse concerne lui-même. Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec qui pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Seigneur, prends quelqu'un d'autre. Non, non, moi, je suis trop petit. Regarde ma famille, elle vaut rien. Elle est pas connue, elle n'est pas reconnue. Dites-moi, les enfants, est-ce que ça arrive des fois qu'on ait cette excuse aussi avec nos parents, hein? Dire, je suis trop petit pour faire ces choses-là, je ne sais pas comment le faire. Est-ce que vous avez déjà eu ces réponses? Oui, comme ça, des fois, hein? Et qu'est-ce que Dieu va dire dans verset 16? Il répète qu'il sera avec lui. Même si nous sommes tout petits, nous sommes capables de faire des choses pour notre parent, à l'école, pour notre prochaine vie, mais aussi pour le Seigneur. Alors, regardons un peu plus loin dans Juges chapitre 6, verset 25. Là, maintenant, on sait que, bon, Gédéon a demandé des signes. Le Seigneur lui a montré comment qu'il était avec lui. Et ensuite, Dieu va lui demander quelque chose. Juges chapitre 6, verset 25, la nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau sacré qui est dressé à côté. Donc on voit que dans cette famille, il y avait une crainte de Dieu, mais en même temps, il y avait une adoration de d'autres idoles. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, ben, moi, je veux t'engager pour une œuvre, mais avant tout, il faut que tu nettoies la maison de ton père. Tu ne peux pas être avec Dieu et en même temps avoir des idoles. Rappelez-vous que Gédéon dit qu'il est le plus petit de la famille. Et on sait que Gédéon, ben, c'est dans la nuit qu'il a battu, parce qu'il avait peut-être peur encore de son père, des autres personnes. Et on sait que le matin, quand les gens ont vu que le poteau était démoli, que la statue était démolie, ils ont dit, mais qui a fait ça qu'on puisse le crucifier, qu'on puisse le tuer? Ils étaient tellement outrés qu'on ait pris, je veux dire, qu'on ait enlevé la statue, le Dieu qui était leur Dieu à ce moment-là. On a besoin, avant que Dieu nous donne des tâches à accomplir, à remplir une mission spécifique, un appel à le suivre, il demande que l'on purifie notre propre maison. Et ce n'est pas juste la maison physique, mais c'est la maison spirituelle, c'est-à-dire notre être intérieur, notre cœur. Voilà pourquoi que les parents ont besoin, jour après jour, de continuer de grandir dans la présence de Dieu, pour que cette maison soit propre, pour que l'enfant puisse grandir dans un environnement qui est saint, où on craint Dieu, où on honore Dieu, on respecte Dieu. Lorsqu'on est prêt devant le Seigneur d'abandonner tout ce qui nous sépare d'une véritable relation, de démontrer notre désir du changement, alors comme Gédéon, Dieu va nous faire d'accomplir beaucoup de choses, des choses extraordinaires. Et dans les versets suivants, on voit comment que Gédéon, qu'est-ce que Gédéon va faire pour accomplir la mission que Dieu lui donne. Regardons un peu plus près la proportion des Israélites. Donc, il convoque toute l'armée et il y a 32 300 personnes, des hommes bien armés, bien traînés, qui se présentent pour combattre les Madiatites. Eux, les Madiatites, sont 150 000 hommes. Ça fait une proportion de 1 Israélite sur 5. Alors, on va faire une démonstration. Alors, qui veut être Gédéon aujourd'hui? Qui veut être Gédéon? Oh là là. Bon, Choki, viens, tu vas être Gédéon. OK, mets-toi à côté. Et puis, je veux que 5 enfants se mettent aussi à côté. On va voir ça. Regardez. Alors, ben là, Gédéon, tu es là. Et puis, les autres 5 personnes. Je dis 5 enfants, là. Levez-vous, là. Levez-vous, là. OK. Bon, tu peux mettre la caméra 4 ou 3 pour qu'on puisse voir un peu les enfants. 2, 4. Il manque un enfant encore. Oh, viens, Gaëlle. Ouais, tu vas représenter la gente féminine. C'est bon, ça. OK, viens de ce côté. Viens de ce côté. Viens ici avec tous les gars. Viens ici. Voilà. Bon, OK. Donc, vous voyez, Gédéon, hein, qui est tout seul. Donc, ça, c'était un Israélite pour 5 Madians. Donc, si on demande à Choki ou à Gédéon de se battre contre les 5, qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Ouais, surtout qu'il y a un grand Madiadite là, hein, qui est pas mal gros fort. Hein? Donc, je pense qu'il va avoir pas mal de coups sur la tête, comme on dit. Hein? Donc, mais là, Dieu va lui dire, mais il y a trop d'hommes, il y a trop d'hommes. Donc, il lui dit, il faut enlever tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui ont peur et comme ça. Donc, il va enlever pour qu'il reste en Israélite pour 15 Madians. Ouais, donc, toi, tu peux venir. Donc, tous les autres enfants, venez devant, là, venez devant. Je ne sais pas si on sera 15, là, mais venez, ouais. Même les ados, vous pouvez vous lever aussi, là, ça vous permet de bouger un peu. Bon, OK. Bon, là, on n'arrive pas à 15, mais donc, il y a un Israélite compte maintenant, qui est maintenant compte 15 hommes. En proportion. Est-ce que c'est ça que Gédéon est parti avec l'armée? Non. Dieu va lui dire, non, il y a encore trop d'hommes. Et là, il va faire une sélection un peu bizarre au bord de l'eau, et il va rester un homme, il va rester 300 hommes. Donc, ça fait un Israélite pour 500 hommes. Donc, ça veut dire que tout le monde devrait être ici, même plus, hein? Même tous ceux qui sont ici, fois 10, qui se mettraient ici à côté. Donc imaginez, Gédéon tout seul, ou bien Israël tout seul, compte 150 Madiatites, bien entraînés. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous ne pensez pas que Gédéon a besoin de dire, va avec la force que tu as? Ben oui, Seigneur, tu nous l'as laissé pas mal diminuer l'armée. On est commencé à 30 000 hommes et maintenant c'est 300 hommes. Donc c'est juste un homme sur 100 que tu nous permets d'avoir. Voilà, vous pouvez aller vous remettre. Mais juste pour montrer comment que la puissance de Dieu est là. Donc Dieu donna la victoire à Gédéon. Non pas parce qu'il était un grand homme, mais parce qu'il se disait le plus petit de la famille, mais parce qu'il a eu la foi. Tu peux remettre la caméra numéro 4. Donc Dieu donna la victoire à Israël, non pas à cause de leur nombre, de leurs armes, par une stratégie que seul Dieu pouvait donner, qui a effrayé l'ennemi et qui les a mis en déroute. Alors, imaginons qu'aujourd'hui, notre petit Gédéon peut aussi devenir un grand Gédéon comme celui de la Bible. Il va grandir dans la connaissance de Dieu. Il va être instruit par ses parents, par l'Église. Il va avoir une foi, nous croyons, nous le prions, pour faire de grandes choses pour Dieu. Alors, lorsque vous verrez Gédéon, continuons de prier pour lui, pour dire qu'il ait cet engagement comme Gédéon a eu avec l'Israélite. Comment que il n'a pas été par ses propres forces, même s'il a beaucoup douté, même s'il pensait qu'il était le plus petit, Dieu lui a donné la puissance, la victoire sur un peuple tellement plus nombreux que lui. Mais Dieu voulait montrer que c'est la seule puissance de Dieu. Ce n'était pas l'homme, ce n'était pas Gédéon, ce n'était pas les stratégies de l'homme, c'est Dieu. Alors qu'on puisse voir que chacun de nous, nous pouvons être cet homme ou cette femme, ce grand homme, cette grande femme, comme Dieu nous l'a dit, lève-toi, vaillant héros, lève-toi, vaillante héros, et va de l'avant. Je vais te confier une mission. Regarde pas à tes forces, regarde pas à ton expérience, à tout ça, mais je vais te donner ma puissance, je vais te donner ma foi pour que tu puisses aller de l'avant. Et Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Amen. Amen. Voilà, donc j'aimerais inviter les deux parents à venir devant. On veut avant tout, avant de pouvoir consacrer cet enfant, on veut entendre leur témoignage. On veut entendre pourquoi ils veulent consacrer ce jeune enfant. Alors j'aimerais demander à quelqu'un de faire des photos, puisque Déborah n'est pas, pas Déborah et, ni Nicole est là ce matin. Alors Espérance va faire les photos. OK. Alors, tu peux aller au micro.
Gloire à Dieu. Amen. Et en ce jour, nous prions pour la vie de Gédéon. Et depuis que Gédéon a été conçu, un moment n'a pas été facile, comme vous-même vous le savez très bien, parce que au moment où une femme tombe enceinte, il y a des malaises. Mais Dieu a été avec nous. Dieu a été avec nous durant tout ce temps et même le jour de l'accouchement, il nous a fait également grâce. Parce que nous tous, nous savons que lorsqu'une femme accouche, c'est un moment qui est spécial. Et tout le monde, en ce moment-là, se concentre sur Dieu, prie Dieu pour que Dieu délivre l'enfant et la maman. Et donc, ce qui fut fait, Dieu a écouté nos prières, il a exaucé nos prières. Et puis, Gédéon est né. Il est né, Dieu a permis, Dieu les a délivrés tous deux. Et nous voudrions vraiment rendre grâce à lui. Et il grandit aussi, il a déjà 4 mois. Donc, c'est lui qui veille sur lui, c'est lui qui veille sur toute la famille. Et ce matin, nous voudrions vraiment lui rendre grâce. Et ce matin, nous voudrions le consacrer à Dieu parce que c'est Dieu seul qui est le grand protecteur. Et nous savons qu'il y a des gens qui vont auprès des eaux, auprès des arbres, auprès des pierres pour pouvoir confier leur enfant. Mais nous avons choisi le Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est puissant plus que tous ces petits dieux-là. Donc c'est à lui que nous confions le Gédéon et je profite également pour nous confier, nous tous aussi, à lui. Amen. Et donc, nous voudrions chanter une chanson pour et témoigner de notre gratitude. Amen. Nous allons chanter ça en évé, c'est-à-dire dans notre langue locale, ce qui.
Donc Dieu, par Moïse, a fait alliance avec Israël en lui disant, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On trouve ce texte dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Donc au temps de la nouvelle alliance, Jésus-Christ a dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Matthieu chapitre 19, verset 14. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a déclaré en ce qui concerne le salut donné par Christ, la promesse est pour vous et pour vos enfants. On le trouve dans Actes chapitre 2, verset 39. Donc, on a le privilège de présenter nos enfants au Seigneur et notre devoir est de les élever dans ses voies. Ses parents amènent maintenant Gédéon pour le consacrer et pour s'engager en présence de cette assemblée à l'élever dans la discipline et à l'enseignement du Seigneur. Alors prions. Père céleste, nous te louons aujourd'hui pour ce cadeau, Gédéon, que tu as fait à notre Seigneur, au monde, au sein de notre peuple et de ce foyer. Nous te remercions pour la joie que Gédéon leur a déjà apportée. Nous te remercions aussi pour le potentiel dont tu l'as déjà doté. Puisse-t-il grandir avec sagesse, en maturité, pour obtenir ta faveur et celle de son prochain. Seigneur, sois béni Ignace et Pierre, alors qu'ils éduquent leurs enfants. Sois présent et à l'œuvre dans leur foyer, afin que dès le début de leur vie, cet enfant puisse affirmer lui-même tout ce qui a été pris comme engagement en son nom aujourd'hui. Nous te prions aussi, Père, que tu bénisses cette grande famille, notre Église, afin que par notre façon d'être et nos façons d'agir, nous puissions être des exemples, exercer un ministère dans la puissance du Saint-Esprit, nous conduisant à l'accomplissement de ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions parce que tu as pensé à cet enfant bien avant qu'il soit conscient de ton existence, de la place que tu lui réserves dans ton plan et de l'amour dont tu inondes chacun de nous. Merci pour ta grâce qui nous attire même avant que nous ayons déjà pensé à toi. Viens maintenant et bénis-nous alors que nous te consacrons cet enfant. Et nous te demandons ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vais m'adresser aux parents parce qu'eux-mêmes vont prendre aussi cet engagement aussi devant le Seigneur et devant vous aussi. Donc, en présence de Dieu et de cette Église, consacrez-vous solennellement cet enfant au Seigneur.
Oui, nous le voulons.
Renoncez-vous au diable et à toutes ses voies et à toutes ses œuvres afin de vous efforcer de ne pas suivre ses voies ou être conduit par elles.
Oui, avec l'aide de Dieu.
Cherchez-vous en parole et en action à donner l'exemple à Gédéon pour le conduire à la foi personnelle en Christ.
Oui, avec l'aide de Dieu.
Acceptez-vous l'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament comme étant la parole de Dieu.
Oui.
Vous empressez-vous avec diligence d'utiliser les Écritures afin d'enseigner à Gédéon les commandements et les promesses du Dieu Tout-Puissant, l'élevant dans la discipline et l'instruction du Seigneur.
Oui, avec l'aide de Dieu.
Et continuerez-vous d'élever votre enfant dans la fraternité de l'Église afin qu'il puisse voir, expérimenter ce que signifie de faire partie du peuple de Dieu.
Oui, avec l'aide de Dieu.
Nous reconnaissons qu'il est notre devoir de supporter cette famille par nos prières, par nos encouragements, aidant aussi les parents, justement, et l'enfant à réaliser tout ce qui a été promis ici. Alors, je vais prendre l'enfant, c'est bon? Alors, Gédéon, je te consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais juste inviter le pasteur Nathan et notre frère aussi parfait à venir prier aussi. Prier pour l'enfant, prier pour la famille, pour que nous puissions continuer d'encourager cette famille. Et nous, on peut simplement aussi se lever et tendre les mains vers cette famille comme un signe que nous voulons aussi les bénir, les encourager aussi. Prendre le micro, juste prendre le micro.
Père, nous voulons te prier pour Gédéon, c'est toi qui le connais. Jérémie a dit que avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, tu le connaissais. C'est toi qui l'as dit et que tu l'avais établi. Nous croyons que Gédéon aussi, tu le connaissais avant qu'il ne soit conçu. Et avant qu'il soit sorti du ventre de sa mère, tu le connaissais. Et tu l'avais déjà établi. Quelque chose que nous ne connaissons pas encore, que ses parents ne connaissent pas encore. Mais c'est pour cela que nous voulons te prier. Parce que tu dis que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tout petit que Gédéon est, avant même qu'il ne naisse, tu avais déjà prévu ce projet de paix pour lui, afin de lui donner un avenir. Parce que quand il vit, il est venu sur cette terre, tout ce qui arrive à venir, il n'a que 4 mois. Tout ce qu'il va vivre, c'est l'avenir, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 60 ans, 80 ans, selon ce que tu fais, c'est l'avenir. Et pour tous ces jours-là, aussi nombreux qu'ils sont, éternel mon Dieu, tu as des projets de paix pour ces jours. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces projets que tu as pour chacun de ces jours s'accomplissent, arrivent effectivement dans sa vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que par ta puissance, Père, tu amènes à existence ces choses dans sa vie. J'engage ses parents, éternel Dieu, à rechercher ta face pour mettre Gédéon devant toi. J'engage ses parents, éternel mon Dieu, mon Père, à le présenter à toi continuellement, à l'exposer à toi, afin que ta puissance, éternel mon Dieu, mon Père, souffle sur lui, afin que ton esprit prenne possession de lui. Au nom de Jésus, nous prions que ta grâce abonde sur la vie de Gédéon. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout plan qui ne vient pas de toi. Parce qu'en même temps que toi, tu as des projets de paix et de bonheur, l'ennemi a des projets de malheur et de destruction, des projets de vol, des projets de mort. J'annule ces projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que ces projets échouent au nom de Jésus. Je plonge Gédéon dans le sang de Jésus, dans le sang de la rédemption, le sang qui a permis que tes enfants, éternel mon Dieu, mon Père, passent à travers cette nuit-là où tu as frappé les premiers-nés égyptiens. Je décrète et je déclare que le sang de Jésus coule sur lui en abondance et le protège de toute œuvre de l'ennemi. Merci, Père, parce que ta grâce est sur lui au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce précieux cadeau que tu as donné aux parents, Seigneur, Pierre de Gédéon, Pierre et Inès, mais aussi, Seigneur, à l'Église. C'est un grand cadeau, Seigneur, de voir cette personne venir au monde. Seigneur, c'est un miracle en soi. Nous voulons, Seigneur, comme on l'a déjà dit, comme on a déjà prononcé les paroles merveilleuses, oui, nous te rendons ce cadeau à toi, Seigneur, qui a donné, pour que tu prennes soin et que tu enseignes, Seigneur, aux parents de comment élever cet enfant pour toi, dans ta grâce, Seigneur, mais aussi dans la sagesse que toi-même tu donnes, et dans la statue de Christ. Seigneur, que cet enfant puisse te suivre. Seigneur, suivre tes pas et faire comme tu as fait, car toi-même, tu étais enfant dans ce monde et qu'il puisse suivre ton exemple. Nous voulons prier pour la sagesse à Inès et Seigneur à Pierre pour élever cet enfant. Nous savons que vu ce monde où nous sommes actuellement et vu comment l'ennemi est acharné, Seigneur, avec beaucoup de choses, beaucoup de distractions, Seigneur, comme on a déjà prié, que tu leur donnes la sagesse et que tu leur fasses la grâce, Seigneur, de pouvoir élever cet enfant pour toi. Et qu'il le fasse, Seigneur, comme un devoir primordial, Seigneur, que c'est tout ce que tu lui demandes, Seigneur. Et si tu as donné ce cadeau, c'est que pour ce cadeau puisse, Seigneur, accomplir le plan que tu as, toi-même, tu as formé, d'être un témoin de Christ, Seigneur, dans ce monde qui périsse. Oh Seigneur, que cet enfant puisse amener la lumière de Christ, puisse montrer Christ, puisse parler de Christ, le prince de la paix, que le monde manque. Seigneur, que cet enfant fasse une différence. Et nous voulons prier aussi pour les moyens, que tu donnes les moyens nécessaires aux parents de pouvoir venir élever cet enfant et que cet enfant ne manque rien avec d'autres enfants. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi le riche. C'est toi qui possèdes toutes choses. Et tu nous les donnes. gratuitement. Tu nous le donnes avec abondance. Tu nous le donnes, Seigneur, généreusement. Et que tu le fasses aussi pour Pierre et pour Inès, Seigneur. Merci. Que nous, en tant qu'Église aussi, nous puissions prendre cet engagement solennel de les aider à élever cet enfant par la prière et par, Seigneur, les souhaits, par les conseils que nous pourrions pour que, Seigneur, cet enfant vraiment nous manque. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup.